mon titre, d'abord, c'est « Les effets délétères des clauses sociales sur les normes de travail ». Et je voudrais commencer de la manière suivante, vous allez voir, j'ai deux parties. En première analyse, le fait qu'un gouvernement insère des clauses sociales dans un accord de libre-échange pour assurer une certaine protection aux travailleurs du partenaire avec lequel les négociations sont menées, cette initiative ne devrait pas soulever d'objection. Au pire, ces dispositions n'auront aucun effet juridique utile. Au mieux, elles pourraient offrir une protection minimale bienvenue. En deuxième analyse, une initiative de ce genre pourrait même être validée, sinon applaudie, parce qu'elle représenterait une véritable transnationalisation du rôle protecteur d'un État, généralement développé, vis-à-vis d'un autre État, généralement moins développé. Malgré ces relents paternalistes, cette bienveillance étatique serait bénéfique pour toutes les parties concernées, c'est-à-dire aussi bien pour les travailleurs du Sud, qui trouveraient là un soutien bienvenu au respect du droit interne, que pour les travailleurs du Nord, qui y trouveraient un certain réconfort face au risque de dumping social. Je voudrais démontrer qu'en dépit de leur effet juridique sans doute limité, l'introduction de clauses sociales dans un accord de libre-échange entraîne deux conséquences majeures. Premièrement, elle cautionne une mise à l'écart au niveau politique, dépolitisation peut-être, et elle opère une importante dilution du droit au niveau juridique. D'où le fait qu'une telle initiative représenterait bel et bien une double menace pour les travailleurs des deux pays concernés. Alors, j'ai deux parties. Et comme on est bousculé un peu par le temps, je vais aller assez vite sur la première pour m'attarder sur la deuxième. La première partie porte essentiellement sur le problème de des institutions, ce qu'on peut appeler la gouvernance globale, mais vraiment au niveau international. Et je voudrais faire ressortir une chose ici, et je vais le dire rapidement, donc avec toutes les... je vais dire une chose pour commencer, c'est qu'on peut sans doute poser que la construction de l'ordre d'après-guerre, l'architecture de l'ordre d'après-guerre, était en gros « labor-friendly ». Et elle était « labor-friendly » pour, donc sympathique à la question du travail, hein, je ne parle pas ouvrière, du travail, pour deux raisons. D'abord, au niveau même du système de l'ONU, cette idée d'avoir, hein, c'est, je ne vais pas entrer dans les détails, mais l'architecte que je préfère dans tout ça, c'est Shotwell, un ancien de l'OIT, qui a voulu transposer depuis l'OIT au système de l'ONU, un mécanisme de tripartisme, même boiteux, à l'intérieur de la création de l'ECOSOC. L'OIT même est tripartiste, etc. Donc, prenons ça pour acquis, que l'ordre d'après-guerre était, en général, labor-friendly, à quoi il faudrait ajouter, bien sûr, hein, l'impact des pays socialistes, hein, qui exerçaient sur le système une pression occulte ou directe très importante. On arrive à l'heure actuelle dans un système où, le moins qu'on puisse dire, il est « labor unfriendly hein? ». Et alors là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce serait intéressant de le décomposer pour regarder un peu ce qui est arrivé à l'ECOSOC lui-même, ce qui est arrivé à l'OIT, la prolifération des organisations au niveau international, entre autres le rôle de l'OMC, ce dont on a parlé ce matin d'ailleurs. Je viendrais s'ajouter à ça pour nous donner une cartographie sur laquelle, mettons, on pourrait en tout cas réserver le jugement, mais dont on ne pourrait pas dire qu'elle était ni aussi simple, ni aussi labor-friendly qu'était le système qu'on avait mis en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est un aspect qui m'apparaît important. On a des indicateurs là-dessus. La baisse de la syndicalisation dans tous les pays, ou à peu près, accélérée même, et cet élément-là m'apparaît donc ajouter de l'eau au moulin de cet argument. Mais je voulais arriver au second argument, qui m'apparaît peut-être beaucoup plus solide au fond, c'est de regarder sur la dimension, de regarder la dimension juridique de la chose. Et si je peux retrouver mon petit machin, ça va aller mieux. La dimension juridique de la chose dont on n'a pas parlé et qui me paraît être un élément fondamental pour comprendre, entre autres, le droit du travail, c'est l'élément du conflit. On dit souvent que le droit est le résultat d'un rapport de force. C'est vrai pour à peu près toutes les normes, mais c'est surtout vrai pour le droit du travail. Et alors là, bien sûr, la question, c'est la suivante. Quand on change de registre, je ne suis pas au niveau des institutions, je suis au niveau de la construction de la norme, quand on perd cette dimension conflictuelle dans le droit du travail, que perd-on? Alors, je voulais, et c'est ce qui va me permettre d'expliquer d'ailleurs comment le fait que l'État, un gouvernement, prenne dans une négociation sur lui de négocier une clause sociale c'est peut-être faire trop vite, et c'est peut-être priver les acteurs sociaux, et entre autres l'acteur syndical, d'un élément essentiel dans la construction du droit du travail en particulier, qui est l'élément du conflit. Alors, pour le faire, je me suis servi d'un petit ouvrage que je trouve absolument merveilleux, malheureusement perdu dans la mémoire collective. Mais je dis souvent que ma définition de l'université, d'ailleurs, je la donne en passant gratos, c'est une institution qui a pour mission de lutter contre l'amnésie. Alors, je vais prendre ça au sérieux. Je vais réveiller ce petit livre de 1939, Emmanuel Lévy, qui s'appelle « Les fondements du droit ». Alors là, je vais le lire et le citer, je vais me lire et le citer, parce que je trouve cet élément-là fondamental pour comprendre la chose. Alors, Lévy explore l'interface entre droit et devoir, et pour ce faire, il compare la situation qui prévaut lorsque le capitaliste est seul propriétaire de son entreprise à celle qui s'impose lorsque la levée de capitaux passe par l'achat d'actions et d'obligations. Dans ces circonstances, rappelle-t-il, je cite, « le capitalisme prend la forme d'un droit de créance » et il ne se présente pas sous la forme de créances individuelles, mais de créances collectives des capitalistes. Ça, je pense que cet élément-là, il est fondamental. Vous allez voir pourquoi dans un instant. Le capital appartient désormais à des sociétés anonymes, à des entreprises publiques, mais pas nécessairement étatiques, on se comprend bien, c'est-à-dire cotées en bourse. Or, les obligataires et autres actionnaires qui ont prêté dans le premier cas, ou qui ont avancé dans le second, hein, action-obligation, de l'argent à la compagnie, ces obligataires et ces actionnaires ne sont pas propriétaires de l'entreprise. Hein. Il y a bien un patrimoine, ajoute Lévy, mais ce patrimoine est sans propriétaire. Aucun associé ne peut prétendre avoir un droit sur une machine, un terrain, un stock de marchandises avant la dissolution de l'entreprise. En attendant, chacun n'a droit qu'à de l'argent, et Lévy ajoute, ainsi dans les cartels, les individus se considèrent comme ayant des droits non à la propriété de leurs produits, mais à leur valeur telle qu'elle est déterminée par une entente commune, d'où cette conséquence fondamentale, le capitaliste a des droits, mais le capital a tous les devoirs. Ça m'apparaît, l'inversion qui est opérée ici m'apparaît centrale. Dans ces conditions, on assiste à un renversement intéressant et significatif, puisque ce sont alors les personnes morales qui ont les devoirs, tandis que les personnes humaines ont des droits. Ou pour dire les choses autrement, les capitalistes ont désormais des droits de créance, alors que les capitaux assument les devoirs. Alors, qu'est-ce qui arrive si on transpose cette analyse du statut juridique du capital au travail? Alors, c'est ce que Lévy m'amène à faire. Pour les comparer, il faut partir, bien sûr, du contrat individuel de travail. Mais qu'est-ce que veut dire le contrat individuel de travail? C'est quoi le droit du travail, le droit au travail, le droit dans le travail d'un individu? La question se pose avec d'autant plus de pertinence que la question n'a dans ce contexte aucun contenu substantiel, car le droit en question est plus ni moins qu'une rétribution consentie, hein, qui a cette particularité de ne pas varier si le patron augmente les bénéfices et de diminuer, voire de disparaître complètement s'il fait de mauvaises affaires. Par ailleurs, compte tenu de la concurrence imposée aux travailleurs, aux employés les uns vis-à-vis des autres, cette rétribution aura plutôt tendance à diminuer qu'à augmenter et à la limite à n'assurer que la survie pure et simple de l'employé ou du travailleur. En somme, ce soi-disant droit individuel du travail est à ce point variable qu'on peut se poser la question de savoir si c'est véritablement un droit et pas un devoir pur et simple. En conséquence, contrairement au collectif des capitalistes qui disposent d'un droit substantiel, l'ouvrier seul et isolé engage sa propre personne physique par contrat. On retombe dans du Marx, là, hein, bien sûr. Il n'a aucun droit substantiel véritable. Pourtant, c'est seulement en négociant et en contractant en tant que collectif de travailleurs, et c'est là qu'on va pouvoir voir la symétrie tout à l'heure, en tant que travailleur collectif qu'il acquiert, à l'instar du capitaliste, une véritable créance sur le capital. En effet, à partir du moment où les travailleurs décident de créer ou d'adhérer à une organisation syndicale et choisissent de négocier collectivement un contrat de travail, les choses changent du tout au tout. Selon Lévy, tandis que l'ouvrier qui contracte isolément un salaire tendant à descendre jusqu'à un minimum correspondant à ce qui est nécessaire pour entretenir sa force vitale, le travail dans le contrat collectif acquiert un droit de créance tendant à monter jusqu'à un maximum correspondant à sa capacité à faire valoir son droit dans la production. Et cette symétrie m'apparaît tout à fait essentielle pour comprendre la nature de ce droit du travail face au capital. En somme, à l'instar des actionnaires et autres obligataires, un collectif d'ouvriers ou d'employés détient désormais une créance collective sur le capital. Ou pour dire les choses autrement, Leur droit n'est plus un simple devoir d'obéissance qui compense une rémunération individualisée. Ce n'est plus un droit à contenu variable, mais bien une créance collective sur le capital. Dans les deux cas de figure, celui de l'obligataire ou de l'actionnaire d'un côté, celui de l'employé ou de l'ouvrier de l'autre, c'est la société par action qui permet cette transmutation, cette transformation de droit individuel en contenu variable, en créance collective, soutenant des revendications susceptibles d'avoir des effets redistributeurs réels pour leurs détenteurs ou bénéficiaires. D'ailleurs, historiquement, c'est le recours à un geste collectif, hein, le recours à la grève, c'est-à-dire la rupture collectivement assumée du contrat de travail, et non pas la rupture individuelle. La rupture individuelle du contrat de travail n'a strictement aucun effet. C'est donc cette rupture collectivement assumée qui permet aux travailleurs d'imposer la reconnaissance par le patron du contenu substantiel de leurs droits, alors que cette reconnaissance leur était déniée quand ils négociaient chacun de leur côté des contrats individuels de travail. Alors, vous voyez tout l'intérêt d'une démarche comme celle-là. Elle nous permet d'analyser, d'interpréter le droit du travail et de voir un peu les effets juridiques du droit du travail de manière parfaitement différente, parce qu'on parvient à introduire ici la dimension qui faisait défaut dans d'autres démarches, c'est-à-dire la dimension du conflit. Si à l'âge du capitalisme de monopole pourrait équilibrer les prétentions respectives des actionnaires et des travailleurs, il pourrait équilibrer les prétentions respectives des actionnaires et des travailleurs, il importe que la loi du travail soit envisagée d'abord et avant tout comme un droit collectif, on saisit mieux la portée politique d'une stratégie, je reviens sur les clauses sociales, qui, sous prétexte de protéger des travailleurs, vise au fond à individualiser le droit du travail de manière à diluer la créance collective des travailleurs ou des employés et à la transformer en autant de devoirs individuels que chacun d'eux doit assumer seul face à un employeur qui, hein, pour continuer avec la comparaison tout à l'heure, l'employeur lui-même qui continue, lui, de bénéficier des avantages inhérents au fait qu'il détienne une créance collective sur le capital. Alors, c'est cette dimension-là qui m'apparaît centrale. Je ne vais pas continuer à lire mon texte, là. Cette dimension-là qui m'apparaît centrale, de bien mettre en lumière qu'une des caractéristiques du droit en général, si on veut, mais surtout du droit du travail, c'est le conflit. Bon, c'est le conflit qui permet d'établir non seulement le rapport de force, mais surtout la nature même de la créance. Alors, compte tenu de ce qu'on a entendu ce matin, le problème se pose de savoir comment rétablir un tel rapport de force dans le contexte actuel. Et ça, ça m'apparaît une très grande difficulté. Bien sûr, le rapport de force, on peut l'établir au niveau national, dans des conjonctures nationales. Et alors là, moi, pour avoir été et interviewé des gens sur le projet Better Work in Cambodia, je reviens de là avec une vision beaucoup plus critique de cette stratégie-là, parce que ça va assez mal. Et on vous le dit, même des gens qui sont, surtout les gens qui sont à l'OIT là-bas, on vous le dit, un des grands problèmes qu'on a, c'est que dans la mesure où on a ces engagements, l'engagement, il ne dure que ce que dure la volonté de celui qui domine dans le contrat. Et faute de mobiliser sur place, faute donc de syndiquer ces groupes-là, d'aller vers une grève, il n'y a pas moyen vraiment de verrouiller ces engagements-là de manière tant soit peu forte dans le temps. Ce qui se fait par ailleurs, parce qu'il y a quand même pas mal de conflits autour de ce Better Work in Cambodia, là, Better Factories in Cambodia, pardon, il y a pas mal de conflits à Phnom Penh en particulier qui permettent, quand il y a conflit, de verrouiller un peu le système. Sinon, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle en droit une libéralité, là. Le patron le veut, mais tout à coup, il ne veut pas, il change de propriétaire et la chose est diminuée. Alors, je voulais introduire cette dimension-là parce que cette dimension de conflit m'apparaît constitutive en particulier du droit du travail. Mais cela dit, je comprends très bien son application au niveau national, dans des conjonctures nationales. Donc cette idée, et sans vouloir du tout minimiser l'importance de ce dont on a parlé, clause sociale, ACI et autres, de vouloir introduire cette dimension-là, parce que la clause sociale en elle-même pourrait avoir l'effet inverse, c'est-à-dire d'individualiser ce droit du travail et donc de fragiliser le mouvement ouvrier à l'intérieur du pays concerné. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on est ouvert vis-à-vis des autres instruments qu'on pourrait utiliser, le problème majeur se trouve désormais posé au niveau international. Comment établir cette notion, comment la rétablir, cette notion de rapport de force, et je vous regarde Jim Baker, c'est là que ce serait intéressant d'avoir peut-être vos commentaires là-dessus, comment rétablir un rapport de force au niveau international. La multiplication de la présence d'organisations syndicales, des fédérations, The Council of Global Union. Enfin, je ne ferai pas toute la panoplie, CSI, etc. Il y a beaucoup de fronts qui sont ouverts. Mais est-ce qu'il y a véritablement un rapport de force? Quand vous êtes au TUAC, à l'OCDE, quel est le rapport de force que le TUAC peut établir vis-à-vis le BIAC pour pouvoir avoir un effet utile sur la norme au niveau international? Je pense qu'il y a là un problème majeur. Et je reviens pour boucler la boucle avec ce que je disais au tout début. Dans la mesure où l'ordre d'après-guerre a été, en quelque part, sans vouloir du tout exagérer l'expression, hein, minimalement labor-friendly, et que l'ordre actuel, le moins qu'on puisse dire, est, pour prendre le même contre-pied, un peu labor-unfriendly, comment faire pour rétablir un tel rapport de force? Cela m'apparaît d'autant plus important et urgent, en quelque sorte, que pour vous, je vais vous donner une anecdote plus personnelle. J'ai suivi Nathalie Gilsey. J'ai suivi la mouvance Forum social beaucoup, depuis le début de 2000 à 2007-2008 à peu près. Et j'ai toujours été très frappé par le fait que au Forum social mondial, les questions syndicales ne sont pas abordées. Elles sont abordées dans un forum parallèle qui est confié aux syndicats et qui a lieu avant le Forum social mondial. On m'a donné toutes sortes de raisons pour ça. Mais je trouve qu'il y a là quelque chose de tout à fait révélateur du déplacement de l'enjeu du travail dans le monde à l'heure actuelle. Il y a des milliers de militants qui sont au Forum social mondial et qui entendent parler de travail de toutes sortes, mais les syndicats se diluent, une fois qu'ils ont parlé de questions de travail, se diluent pour parler d'autre chose. Alors, il y a là, je pense, une belle illustration, je ne vais pas faire de reproche au Forum social, loin de là, là, mais il y a là une belle illustration d'un phénomène majeur qui est le déclassement du rôle du travail dans la panoplie des valeurs et dans la panoplie des conflits que l'on mène à l'heure actuelle. Alors, bien sûr, il y a cet émiettement qu'on connaît, mais je suis un peu surpris de voir cette évolution-là se produire, et je me pose la question de savoir mais comment y aurait-il moyen de ramener la dimension de travail à l'intérieur de l'espace international surtout. Je pense que là, il y a une préoccupation centrale. Merci.